Voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Fabienne Servan-Schreiber. Ce soir, femme et combattante.
Bonjour Fabienne Servan-Schreiber.
Bonjour Jérôme Clément.
Alors, nous voici pour cette quatrième émission. Après une première émission dans laquelle nous vous avons suivi dans votre parcours éducatif, votre milieu familial, puis la deuxième émission avec Henri Weber, l'homme de votre vie, et malheureusement sa disparition au printemps dernier. La troisième émission, nous avons parlé de votre parcours professionnel. Et justement, on s'est aperçu en parlant de cet engagement de producteur que vous étiez pas seulement en train d'exercer un métier, mais aussi d'avoir une véritable passion d'engagement, précisément, dans la société. Alors, on va parler aujourd'hui de ces engagements et de votre rapport à la société, vos combats. Vous êtes une combattante, vous le dites souvent, et une militante. Déjà, la question féminine. Vous avez raconté hier comment dans votre société il y avait deux hommes pour 30 femmes et comment vous aviez mené des combats à travers les films que vous aviez réalisés. Je pense à Fatou La Malienne et beaucoup d'autres.
Société de production, oui.
Dans votre société de production, dans les œuvres que vous avez produites. Oui. Voilà. Ce combat pour la cause féminine, il a toujours été le vôtre?
Oui, il date vraiment de la jeunesse, il date des années 68. C'était une époque où il y avait beaucoup de manifestations pour les femmes. Je me souviens même avoir commencé l'organisation d'une manifestation de femmes contre la guerre du Vietnam aux côtés de Delphine Seyrig, qui a été quand même une occasion de m'approcher de cette femme très très extraordinaire, qui a marqué toute une époque par et son féminisme et sa beauté d'ailleurs. Donc très vite, quand on ouvre les yeux, on se rend bien compte, on se rendait bien compte et on se rend compte encore aujourd'hui que la domination masculine est trop forte dans notre société.
Mais dans votre milieu familial, vous aviez été élevée par les bonnes sœurs, vous aviez une mère qui vous conseillait d'arriver vierge au mariage pour faire un beau mariage. On ne peut pas dire que ça vous prédestinait à mener des combats féminins. Donc vous avez viré votre cutie en mai 68.
Oui, il suffit d'ouvrir les yeux et de se rendre compte des réalités. Je veux dire, c'est un rapport au monde, l'engagement, je crois, finalement. Je sais qu'Henri disait toujours, le monde se divise en deux, ceux qui sont à eux-mêmes leur propre but, leur propre finitude, c'est-à-dire voilà leur succès, leur réussite, leur vie, et puis ceux qui s'occupent du bien commun, de l'intérêt général et du reste de la société et du monde. Et je pense que quand une personne comme moi qui a beaucoup reçu a envie de beaucoup donner. Une amie me disait toujours quelque chose que j'ai répété d'ailleurs à mes enfants. Il y a des gens qui reçoivent un dé à coudre à la naissance, il y a des gens qui reçoivent un petit seau pour faire des pâtés de sable, et il y a des gens qui reçoivent un tonneau. L'essentiel dans la vie est de rendre ce qu'on a reçu. Et quelque part, c'est d'ailleurs la parabole des talents. Donc, je me suis sentie privilégiée, comme je l'ai déjà raconté, et du coup, un petit peu dans la nécessité de donner aux autres et de rendre. Quand j'ai pu rendre service, et quand j'ai pu m'embarquer sur des causes, je l'ai fait.
Alors, pour rester un moment encore sur cette question des combats féministes, comment vous jugez ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est votre attitude par rapport à MeToo, votre réflexion? Vous êtes partie au départ, j'imagine, un militant pour la loi Veil, la loi sur l'avortement, et puis aujourd'hui, on est dans un rapport de force qui est complètement en train de changer. Comment vous jugez tout ça?
Alors, je pense que le mouvement MeToo est un mouvement formidable et nécessaire. Et qu'il est en train d'être une onde de choc, comme l'écrit Annette Lévy-Villard, pour le monde entier, puisqu'il pénètre toutes les sociétés et tous les pays. Simplement, je dis attention aux effets pervers, aux dommages collatéraux, et il ne faut pas que ce soit le tribunal médiatique qui fasse la loi. Nous sommes dans des démocraties, il faut passer par une justice légale, et il faut faire très attention à des phénomènes qui se passent de dénonciation rapide sur les réseaux sociaux, et où on brise la vie de certains hommes qui finalement n'ont pas fait des choses très graves. Donc je dis vive le mouvement, mais attention.
Vous êtes pas partie des ultra-féministes telles qu'on les voit se développer dans un certain nombre de...
Non, jamais, jamais, parce que même à l'époque des années 68-70, il y avait des féministes qui rejetaient les hommes. Moi, je les ai jamais rejetés, je les ai toujours adorés. Donc, je pense qu'au contraire, c'est très bien de les avoir. Et c'est vrai qu'il y en a une l'autre jour qui a dit « Je ne supporte pas l'idée du mariage parce que je ne supporte pas l'idée d'être violée. » Moi, j'ai beaucoup aimé avoir un homme dans mon lit pendant des années et donc je ne fais pas partie de cette catégorie-là.
Très bien. Voilà qui est clair. Mais alors, vous disiez donc que ces combats-là vous ont permis d'aller vers les autres, de vous engager dans la société. Alors, bon, effectivement, quand on voit la liste de tous les engagements que vous avez eus, on repère, il y a les prisons. Les oui. prisons, la récidive. Pourquoi les prisons? Pourquoi pas d'autres causes? Ça peut être,
Non, les prisons, c'est parce que j'ai commencé à faire des films sur les prisons, que j'avais beaucoup de mal à les faire, parce que l'administration pénitentiaire nous interdisait d'y aller. Et du coup, j'ai commencé à militer, effectivement, aux côtés de Pierre Botton, qui malheureusement, aujourd'hui, est lui-même incarcéré. Mais ça n'est pas mon histoire à moi. Moi, j'ai partagé l'histoire de notre association et je ne regrette rien de ce que nous avons fait, parce que nous avons fait un énorme travail. Nous avons réhabilité le terrain de sport de Fresnes, nous avons fait de l'équithérapie à Villepinte, on a introduit des machines 3D dans la prison de femmes de Versailles, et puis surtout, nous avons porté auprès du président de la République, Monsieur Macron, aujourd'hui, un projet d'expérience, un peu de laboratoire, qui sont des centres pénitentiaires d'insertion. Ils vont construire des centres où, dès que le détenu arrive, évidemment, ce sont des prisonniers condamnés à moins de 5 ans, hors crime de sang, hors crime sexuel, et des prisonniers volontaires, on les met dans un centre où il y a déjà du travail, où des entreprises françaises financent des ateliers, et donc ils sont assurés, en sortant de cette expérience de détention, d'obtenir du travail. Donc vraiment, on lutte pour la réinsertion. Car comme vous le savez, la France est un des pays qui a le plus grave taux de récidive, ou un des plus gros taux de récidive de tous les pays d'Europe.
C'était le sens de ce mouvement Ensemble contre la récidive.
Absolument.
En quelle année était-ce?
Oh, ça c'est depuis 10 ans à peu près. On a en 2012, dès que la gauche est arrivée, elle a voté une loi pour laquelle on s'était beaucoup battu, qui était justement d'autoriser, parce que comme les prisons étaient fermées, qu'on pouvait pas y rentrer, que l'administration pénitentiaire bloquait, on a fait voter une loi qui autorise un parlementaire à rentrer en prison avec un journaliste. Parce que la loi française dit que si vous êtes parlementaire, sénateur, député ou parlementaire européen, vous frappez à la porte d'une prison, ils sont obligés de vous ouvrir. Mais grâce à notre travail, dorénavant, un parlementaire peut se faire accompagner d'un journaliste. Ce qui est quand même une manière, voilà, d'ouvrir le dialogue, de montrer les choses et de pouvoir les répercuter dans la société civile. Mmh. Puisque un journaliste peut raconter ce qui se passe.
Donc, les prisons. Et la circulaire Guéant en 2011.
Alors,
on est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Voilà, et tout à coup, en période en préélectorale évidemment, ils ont fait passer une circulaire en demandant que les étudiants d'origine étrangère ne puissent plus continuer à travailler en France, qu'on les reconduise à la frontière. Et moi, j'ai été complètement bouleversée un jour en voyant une jeune femme à la télévision, qui disait, voilà, je suis en France, je fais des études, et tout à coup, j'apprends que je ne peux plus continuer mes études, que je ne peux plus obtenir un boulot, un travail, et qu'il faut que je quitte ce pays. Donc là, ça a été une énorme mobilisation. D'ailleurs, j'ai été soutenue par énormément de personnalités, puisque tous les étudiants qui étaient menacés se sont regroupés dans une grande association, et notre idée a été de les faire parrainer par des personnalités, que ce soit des universitaires, des gens de cinéma, des écrivains, etc. Et moi, j'ai passé des mois, mais vraiment, à décortiquer chaque cas, à essayer de trouver de quel préfet dépendait ce cas-là, à écrire au préfet, à téléphoner au préfet, pour essayer de les sortir d'affaires un par un. Bon, ça a été un énorme travail, assez passionnant, parce que beaucoup de jeunes aussi sont venus nous aider. Et effectivement, dès que la gauche est arrivée, ils ont annulé cette circulaire.
C'est un combat qui a été victorieux et qui a permis de
respecter tous ces jeunes qui avaient choisi la France pour venir faire des études et pour apporter leur talent et leur expérience. Et on était bien contents d'avoir des gens de talent dans notre pays.
Et là, vous étiez à la pointe de ce combat qui a permis de...
Je n'ai pas compté mes heures et mes nuits sur les mails, je dois le dire, oui.
beau combat. Il y a eu aussi des combats internationaux, parce que là, on a parlé des prisons, on a parlé des immigrés. Mais vous y avez été aussi parce que Henri Weber était très engagé sur le plan de l'international socialiste. Vous avez été amené à vous engager aussi dans d'autres pays.
Alors, ce qu'on a fait une année avec, dans le milieu du cinéma, une année, on a fait un énorme appel des gens de cinéma. On a eu à peu près 6000 signatures pour les amener à Bruxelles. On a d'ailleurs fait une délégation avec Michel Hazavanicius, Laurent Cantet, Valeria Bruni-Tedeschi et Anna Chigoula. On a eu accès et au vice-président de la Commission européenne, Monsieur Timmermans, et à Martin Schulz, le président du Parlement. On est allé leur dire que nous ne voulions absolument que l'Europe se mêle du soutien aux émigrés et à toutes ces personnes qui prenaient des bateaux et qui mouraient en Méditerranée. Donc ça a été un très gros travail qui n'a probablement servi à rien, mais en tout cas qui a servi à exprimer le soutien de tout un monde cinématographique à ce drame humanitaire. Et puis sinon, j'ai été aussi aider une jeune femme qui a créé une formidable association qui s'appelle Elise Care et qui est allée soigner les populations yézidis en Irak.
Les yézidis en Irak, qu'est-ce que...
Les yézidis sont une communauté de chrétiens au milieu de l'Irak musulman. Et Daesh a été d'une violence extrême avec ces populations, mais d'une horreur absolue. Elise Bogossian a créé une association, on a acheté des autobus, on est allé distribuer des soins, on a eu des équipes sur place et on a réussi à faire, je sais pas, des milliers de soins à des personnes absolument démunies. Voilà, donc... Après, bon, les choses sont un petit peu complexifiées, mais ça n'empêche que ce sont des aides très concrètes et avec des chantiers très précis. Maintenant, on s'occupe à Mossoul des gamins des rues qui sont évidemment abandonnés à eux-mêmes. On a eu récemment une mission au Liban. On continue de faire tout ce qu'on peut.
Aujourd'hui, c'est plutôt vers cette région-là du monde, enfin vers le Proche-Orient, la Syrie, l'Irak... Le Liban aujourd'hui, sans doute.
C'est un puissant fond de besoin d'aide qu'il y a. Mais bon, je fais aussi des choses sur la France. Là aussi, portée par une femme, parce que comme par hasard, ce sont souvent des femmes qui sont très, très engagées, très militantes pour aider les autres. Il y a une jeune femme qui s'appelle Ansara Kertudo, qui est venue me voir un jour. Elle est elle-même malentendante depuis son enfance, mais elle est appareillée. Et puis, il se trouve qu'elle a perdu la vue récemment à cause d'une maladie génétique. Donc, elle se bat beaucoup pour le handicap et pour donner l'accès aux droits aux handicapés, en considérant que tout le système du droit français est très peu formé pour accueillir des handicapés, pour comprendre qui ils sont, comment on leur parle, comment on les traite, etc. Donc là, on a mené plusieurs bagarres, on continue. Hein. Il y a eu, par exemple, une bataille très concrète que je peux vous raconter, c'est parce que c'est important de changer le regard du grand public sur le handicap. Or, on s'était aperçu que dans les dictionnaires, il y avait des définitions du handicap absolument terribles. Par exemple... J'ouvre les guillemets. Désavantages quelconques qui mettent en état d'infériorité dans le Larousse. Désavantages souvent naturels, infériorité qu'on doit supporter. Bon, donc ce mot d'infériorité n'est pas supportable. Du coup, on a écrit, nous, l'association droit pluriel, avec le Conseil national des barreaux, et on a obtenu, pour l'instant, qu'en tout cas le petit Robert change sa définition. Le Larousse, pas encore. Le Robert, oui. Bon, ce sont des petites choses.
Pour mettre quoi à la place ?
Pour mettre une longue définition, mais qui dit...
Oui, non, mais dites-la.
Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, c'est une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. Ça n'est pas une infériorité.
La sémantique a toute son importance.
Très important. Très important. Alors, bon, vous savez qu'il y a aussi eu un nouveau tribunal de grande instance qui a été inauguré il y a quelque temps à Paris, qui est le plus grand d'Europe. Et nous avions écrit pour être certains que les conditions d'accessibilité soient... respecté dans la construction de cet énorme palais de justice qui a été inauguré. Et alors, un jour, comme il ne nous répondait pas, l'association y est allée avec des avocats en situation de handicap et droit pluriel, donc. On a opéré une visite surprise, accompagnée par des journalistes. Et effectivement, on a mis à jour énormément de défauts de ce grand palais de la justice. Donc, les dirigeants n'étaient pas contents, mais au moins, c'était des actions concrètes. La radio l'a repris, le Canard enchaîné l'a repris, et c'est une manière de lutter contre des injustices, des malfaçons.
Vous avez l'impression que ça a progressé sur ce plan-là, sur le plan du handicap, de l'accessibilité?
Écoutez, ça va doucement, mais ça avance. Bon, il y a encore beaucoup...
On partait de loin, en France.
On part de loin, on est très en retard, et c'est un travail colossal, mais on continue.
Et puis alors, il y a eu ce mouvement que vous avez créé, Fraternité Générale.
Il y a 5 ans
Fraternité
déjà.
Fraternité Générale, oui. C'est ambitieux, Fraternité Générale. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Quelle utopie là aussi. Alors qu'est-ce que c'est, Fraternité Générale?
Alors, pour eux...
En dehors de l'utopie du nom.
Alors, attendez, je vais me permettre
de... De l'idéal plutôt.
Je vais quand même vous dire ce qu'Edgar Morin écrit. Oui. Le pire n'est jamais sûr, le meilleur est toujours improbable. C'est pourquoi il faut des prophètes de l'impossible pour faire advenir le souhaitable. Alors effectivement, c'est certainement une utopie, mais une utopie réaliste. Voilà. Et nous avons commencé après les attentats de 2015.
Nous, c'est qui, nous?
Nous, c'est le philosophe Abdennour Bidar, qui est un philosophe laïque musulman très engagé sur la laïcité, qui avait écrit un livre plaidoyer pour la fraternité, et devant la déstructuration de la société, la montée des fanatismes, des communautarismes, du rejet de l'autre, de la haine de l'autre, on s'est dit voilà, il existe quand même quelque chose qui est la fraternité, qui est le côté maltraité de notre devise républicaine. Or, c'est la fraternité qui réconcilie la liberté et l'égalité. Donc, on a voulu mettre en valeur tous les gens qui en font toute l'année et faire un appel aux consciences, comme dirait Abdennour Bidar, l'insurrection des consciences, pour faire attention à l'autre et pour créer un mouvement où on s'applique à renouer le lien social. Et comme il le dit dans une phrase que j'aime beaucoup, à faire en sorte que chacun d'entre nous soit un tisserand ou une tisserande qui s'applique à réparer le tissu déchiré du monde.
Concrètement, comment fait-on pour réparer le tissu du monde?
Alors, déjà, il y a un formidable réseau associatif en France avec des millions de gens qui se donnent du mal à des échelles comme ça très concrètes et très quotidiennes, qui ne sont pas très connues des médias. Donc, moi, ce que j'ai tout de suite fait, c'est des campagnes de clips. Puisque j'ai accès aux diffuseurs, j'ai demandé à toutes les chaînes de passer des clips que nous avons fabriqués chaque année dans des campagnes de clips pour mettre en valeur tous ces individus qui ont des projets absolument magnifiques d'aider les autres et de réparer le tissu déchiré. Après, on a organisé des centaines d'événements. On a organisé en particulier des matchs sportifs, ce qui est une très belle manière dans les cités, dans les quartiers, de mélanger les milieux, puisqu'on organisait des équipes où il y avait à la fois des jeunes des grandes écoles, des anciens policiers, des jeunes femmes homosexuelles, des gens qui sortaient de prison. Voilà, on mélangeait les milieux et on faisait des équipes qui jouaient des après-midi entières et qui étaient, du coup, qui avaient l'occasion de rencontrer l'autre, parce que toute la difficulté, c'est d'avoir accès à l'autre et de lui tendre la main. Donc, on a organisé beaucoup de choses à travers la France. Une année, on est allé organiser autour des remparts de Carcassonne une grande chaîne humaine, qui était la chaîne de Fraternité Générale. On a quand même mis plus d'un millier de personnes, dont les enfants des écoles, qui se prenaient la main à l'extérieur des murailles. On avait même mobilisé la caserne des militaires français d'à côté, des parachutistes qui étaient venus, qui étaient montés sur les remparts de Carcassonne avec chacun les lettres qui composent le mot fraternité. Voilà, donc on essaye chaque année et on recommence et on vient d'en faire cet été encore, hein, en dépit du Covid, à la demande de nos partenaires, des matchs sportifs. On a fait des matchs sportifs qui ont très bien marché.
Et ça suscite beaucoup d'adhésions, il y a du monde,
il y a du monde, il y a des adhésions, les gens sont très touchés. Une année, on a fait tout un après-midi à Cergy autour de la fraternité, avec des jeux, des prises de parole, de la musique. Je peux vous dire, je peux vous dire que les gens étaient extrêmement émus. Parce qu'ils sont aussi contents qu'on aille vers eux, qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur parle, qu'on les considère.
C'est financé comment ?
Alors, c'est financé un peu par des institutions. La région nous aide, le CNC nous aide, France Télévisions m'aide, TF1 m'a aidé à une époque, il y a des municipalités qui m'aident, il y a le CIPDR qui lutte contre la radicalisation et la délinquance, le CIPDR qui nous aide, la DILCRA nous a aidé aussi, voilà, donc j'en oublie et qu'ils ne m'en veuillent pas, mais on essaye de rassembler tous ces mécènes à nos côtés.
En somme, la Fraternité Générale, c'est un résumé lapidaire de tous vos engagements. C'est une synthèse presque de toutes les luttes que vous avez menées dans différents domaines pour aboutir à cette Fraternité Générale. Mais alors, j'ai envie de... Enfin, je caricature peut-être un petit peu, mais cette Fraternité Générale nous met à une question encore plus générale. C'est finalement... Bon, on a bien compris que vous aviez évolué de votre milieu familial vers la gauche, vers l'extrême gauche même, avec Henri Weber pendant la période où il était lui-même d'extrême gauche, et puis finalement vers la gauche réformiste. Alors, bon, j'ai envie de vous faire parler quelques minutes de la gauche. J'ai vu dans une interview que vous avez donnée, un article qui avait été écrit, où on vous demandait, pour vous, qu'est-ce qu'être de gauche ? Et vous avez répondu... C'est croire que c'est la mauvaise organisation de la société, plus que la nature humaine, qui est responsable du terrible désordre qui règne sur la planète.
Oui, je pense que c'est croire que l'homme est perfectible, et que donc on peut, en faisant évoluer justement les conditions de vie qui lui sont données, le rapport au travail, le chômage, les injustices, qu'on peut améliorer l'être humain. Et que du coup, on peut aussi l'améliorer grâce à la culture, qui est une chose très importante, à l'art, à l'éducation, à la connaissance, et qu'on a confiance dans l'être humain. Voilà. Ça suffit peut-être pas pour définir.
Non, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, quand vous avez parlé de réparer le tissu déchiré du monde. D'une certaine façon, c'est une action volontaire pour changer la société.
Absolument.
Alors, il y avait deux voies. Il y avait la voie révolutionnaire et puis la voie réformiste. Donc, ça, c'est le parcours qu'a suivi Henri Weber et qu'ont suivi beaucoup de gens de gauche. Mais la gauche aujourd'hui, compte tenu de l'état dans lequel elle est depuis quelques années, qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment vous la voyez? Et comment vous imaginez sa position, sa place dans la société d'aujourd'hui?
Moi, je vais pas parler du champ politique parce que c'est pas moi.
Justement, c'est intéressant de savoir parce que vous avez vécu avec un homme politique et vous avez côtoyé énormément de responsables politiques. Et vous êtes à la fois très engagé et un peu à côté.
Oui, je suis tout le temps restée dans la société civile. Je suis jamais rentrée dans les partis politiques.
Vous n'avez jamais adhéré à un parti politique?
Non, mais j'ai eu même une proposition un jour, il y a longtemps, de Martine Aubry, de prendre la délégation interministérielle aux droits des femmes, et j'ai refusé.
Pourquoi? Parce que engagée, mais pas militante politique.
Parce qu'il fallait que j'arrête mon métier quelque part. Je rentrais en politique si j'acceptais. Or, j'ai pas souhaité rentrer en politique. Ça suffit dans la famille, il y en a assez comme ça. Moi, j'ai ma liberté dans mon coin, c'est beaucoup mieux. Et finalement, je trouve qu'on fait beaucoup de choses à travers la société, et c'est surtout cette société que j'ai envie de mobiliser. Parce que je pense que chacun d'entre nous, aujourd'hui, on a une responsabilité devant ce qui se passe. C'est comme ça qu'on va pouvoir sortir de cette...
Mais le combat pour la gauche a encore un sens. Enfin, la gauche a encore un sens, première question.
Oui. Alors, pour moi, la gauche a encore un sens, en particulier à l'égard des étrangers et de l'immigration. Quand j'entends parler des hommes et des femmes du centre droit, que je respecte et que je connais souvent, je pense qu'on partage énormément de choses et qu'il y a un moment où le discours sécuritaire et le discours sur l'immigration, je peux pas le partager.
Ça vous bloque là-dessus.
Là-dessus, je peux pas.
C'est un point de clivage majeur.
C'est un point de clivage. Alors, je suis pas assez stupide pour dire il faut accueillir toute la misère du monde. Bien sûr que non. Mais il faut en prendre sa part, comme avait dit Rocard. Et je trouve que nous devons en prendre davantage de part.
Donc, le combat est toujours actuel. Il doit se mener sous les formes d'action dans la société civile, mais aussi d'action politique. Vous y croyez? Vous voyez comment l'avenir de la gauche aujourd'hui, en 2020?
Écoutez, elle va pas très bien, ça c'est clair. Mais si Henri était là, il dirait j'y crois, ça n'est que la quatrième refondation ou la troisième refondation. Oui, elle s'est toujours relevée, il remontait aux calendes grecques. Il avait bon espoir et...
L'apôtre du réformisme et du compromis.
Voilà, et j'espère que la nouvelle génération aura l'intelligence de se rassembler, de s'unir, parce que c'est la seule manière de gagner le pouvoir.
Vos enfants, ils sont sur cette ligne-là, justement ?
Oui, je pense que oui, tout à fait.
Complètement ?
Oui, alors j'ai une fille qui est plutôt un peu à l'extrême gauche, et les autres sont proches sur le plan politique. Mais ils sont aussi dans la société civile, hein. Ils ne rentrent pas en politique pour l'instant. J'ai une fille qui a fait un think tank, qui s'y intéresse beaucoup. Et évidemment, on peut dire que son père lui manque beaucoup.
Donc on peut être confiant dans l'avenir, la relève va être assurée chez les servants Schreiber.
J'espère. De toute façon, ils sont très nombreux, les servants Schreiber. Il y en aura bien un ou deux qui prendront la relève en main.
Acceptons-en l'augure. Merci Fabienne Servant Schreiber.
Merci à vous Jérôme Clément.
Et à demain.
À demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Fabienne Servan-Schreiber. À voix nue, réalisation Vincent Deck, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.